Bonjour à tous. L'émission d'aujourd'hui a été préparée à distance par Marguerite Caton, Aliette Ovine, Paloma Soria-Brown et Bertille Bourdon. À la réalisation, Jean-Christophe Francis. À la technique, Sofiane Aktib.
Entendez-vous l'écho ? Tiphaine de Rocchini.
Félicitations, vous venez de sauver 60 000 personnes. Voilà le message qui s'afficherait sur votre écran si l'épidémie de Covid-19 était l'une des épreuves virtuelles d'un jeu vidéo. L'école des hautes études en santé publique a en effet publié une évaluation du nombre de morts évitées grâce au confinement. Et c'est donc à une véritable hécatombe que nous avons échappé. La France, comme beaucoup d'autres pays, a fait le choix de la santé aux dépens de l'économie. Mais faut-il vraiment sacrifier l'une pour garantir l'autre ? Quel prix notre société est-elle prête à payer pour sauver une vie ? Et qui, du coronavirus ou de la pauvreté, est le plus meurtrier ? Voilà les questions délicates auxquelles nous allons nous attaquer jusqu'à 15h. Vous écoutez France Culture et c'est une immense joie de revenir à vos côtés pour décrypter au quotidien cette étrange période. Pour ce premier épisode de notre série sur l'économie de la santé, nous recevons Christian Gaulier, économiste, directeur général de la Toulouse School of Economics. Bonjour Christian Gaulier.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Alors quel est d'abord votre regard sur cette décision prise par de nombreux pays de mettre à l'arrêt l'économie pour éviter la propagation de la maladie ? Qu'est-ce que cela dit de nos sociétés contemporaines selon vous ?
Oh ben en tout cas, ce qui est clair, c'est qu'il n'y avait pas le choix. Votre intitulé a démarré avec 60 000 morts épargnés. En fait, c'est 60 000 morts juste pour le mois qui s'est écoulé de confinement. Alors, en réalité, si on avait fait zéro confinement, avec un taux de mortalité supérieur à 1%, probablement montant à 2-3% lorsque les hôpitaux sont débordés, on a 80% de personnes contaminées dans les mois à venir, 2% d'entre eux décédants, on est plus de 1 million de morts en France. Donc, je pense que c'est juste impossible d'imaginer une chose pareille et donc le confinement était une obligation.
Et il y a eu un consensus rapidement autour de la nécessité de ce confinement, en effet, et selon le sociologue Emmanuel Didier, c'est lié à la comptabilité des morts, c'est l'idée selon laquelle les chiffres portent une charge émotionnelle qui rendrait plus acceptable peut-être la privation de liberté. Qu'est-ce que vous en pensez ?
C'est sûr que quand on est confronté à une crise comme celle-ci, nous sommes tous prêts à faire des efforts conséquents. C'est assez intéressant de faire un parallèle avec le changement climatique, où aussi, là, on a des problèmes de risques sur la santé et des décès à plus ou moins long terme. C'est intéressant de voir que là, on est beaucoup moins intéressé à faire quelque chose rapidement, mais c'est parce qu'aujourd'hui, les décès, ils sont à nos portes. C'est aujourd'hui, c'est demain, c'est dans les mois à venir que les décès vont se produire dans le cas du coronavirus, et donc notre société confrontée à cette débâcle est prête à faire beaucoup d'efforts au titre de la société, au titre collectif, mais aussi au titre individuel. Je pense que les gens ont bien compris, en même temps qu'ils sont confrontés à un propre risque de leur propre mort, mais aussi au risque de la mort de leurs proches et d'un grand nombre de leurs concitoyens.
C'est en tout cas peut-être la première fois que l'économie a été mise à l'arrêt ainsi au nom de la santé, Christian Gaulier. Et alors j'aimerais que l'on se tourne du côté de la philosophie pour venir peut-être au secours de l'économie. Dans son essai sobrement intitulé « La mort », le philosophe Yankelevitch se demande comment penser ce phénomène naturel et pourtant toujours accidentel. Je vous propose d'en écouter un extrait.
Nous avons sur la mort l'optique du spectateur, et nous sommes pourtant plongés en elle comme dans un destin exclusif de toute perspective. Le centre est partout, et la circonférence nulle part. La mort est donc à la fois objective et tragique. Si la conscience était absolument soustraite à la mort serait un objet naturel d'expérience. Un curieux objet ? Mais un objet, ou un concept pour notre réflexion. Un objet entre autres, un concept parmi tant d'autres, un problème comme tous les autres. Mais la mort, en admettant même qu'elle ne nihilise pas la pensée, supprime l'existence personnelle et psychosomatique de l'être pensant. Cette abolition de toute la personne est le mystère englobant par excellence.
Il est éminemment difficile de penser à la mort, on l'a entendu, et plus encore peut-être pour un économiste, Christian Gollier.
Oui, la vie est sacrée, le décès d'une personne est toujours une tragédie. Néanmoins, on ne peut pas tout sacrifier pour sauver des vies humaines et en fait, nous-mêmes, nous ne sommes pas prêts, nous non plus, à faire un effort infini pour préserver à la fois notre propre vie et celle de nos proches. Donc c'est effectivement un énorme dilemme moral auquel nous sommes confrontés entre la préservation de la vie et la préservation du pouvoir d'achat. Je sais que c'est extrêmement compliqué à traduire cela en des termes monétaires. Néanmoins, une décision doit être prise aujourd'hui dans le cadre du coronavirus. Imaginons que nous soyons aujourd'hui attablés autour de dans le bureau de Matignon. Quelle décision prendrions-nous? Sur quels critères? Je pense que c'est un peu facile aujourd'hui de dire la vie est sacrée, il faut faire tout pour la protéger. Je pense que ce n'est pas complètement ce à quoi nous sommes confrontés. Nous ne sommes pas capables aujourd'hui d'imaginer que nous pourrions sacrifier l'ensemble de l'économie, des revenus que nous pourrions générer en allant travailler. Ce confinement est extrêmement coûteux et il faudra un jour qu'il s'arrête. Et le jour où on l'arrêtera, ce confinement, on sera confronté très probablement à une deuxième vague du coronavirus avec de nouveaux décès. Et la conséquence, c'est qu'il faut dès aujourd'hui décider d'arbitrer entre la préservation de notre pouvoir d'achat et la défense de la vie humaine.
Mais c'est vrai qu'on aimerait croire que la vie n'a pas de prix. Et on peut avoir le sentiment que soumettre la mort à des calculs rationnels peut être cynique. Mais ce que vous nous dites, Christian Gollier, c'est que en réalité, contrairement à ce que l'on pense, on peut donner un prix à la vie. Et c'est peut-être le rôle de l'économiste, justement.
Alors non, je ne pense pas que ça soit le rôle de l'économiste de donner une valeur à la vie humaine. Le rôle de l'économiste, c'est d'aider la décision publique en utilisant, en observant ce que les êtres humains eux-mêmes sont prêts à faire pour se protéger eux-mêmes, augmenter leur espérance de vie, réduire leur probabilité de décès dans les jours à venir. Voilà, il peut observer les comportements des gens et en déduire des préférences individuelles qu'il peut communiquer aux décideurs publics pour les aider à prendre une décision collective dans laquelle un arbitrage entre le pouvoir d'achat et la protection de la vie humaine sont arbitrés. Oublions quelques instants le problème de la crise sanitaire auquel nous sommes confrontés aujourd'hui. On voit bien que les êtres humains, tous les jours, prennent des décisions qui constituent des arbitrages entre leur propre la protection de leur propre vie et l'augmentation de leur pouvoir d'achat. Hein, quand vous décidez de vous équiper d'une voiture qui est équipée de matériel qui va mieux vous protéger en cas d'accident sur la route, probablement vous acceptez de payer un peu plus cher pour réduire votre risque de décès en ayant cet accident de voiture. Donc voyez bien qu'aujourd'hui, tout le monde n'est pas prêt à faire cet effort pour 36 000 raisons. C'est parce qu'on arbitre entre notre pouvoir d'achat, dépenser notre argent pour autre chose qu'une voiture hyper sécurisée et la défense de notre vie humaine. Donc cette observation-là nous indique que la vie n'a pas une valeur infinie, même pour nous-mêmes. Et d'ailleurs, je pense que moi-même et vous-même, vous ne seriez pas très heureux que vos proches accepte de sacrifier l'ensemble du patrimoine de la famille pour réduire votre espérance de décès dans les jours à venir dans le cadre du coronavirus. Donc voyez bien que les êtres humains eux-mêmes ont à faire chaque jour cet arbitrage et c'est l'observation de ces comportements nous donne des informations sur la manière dont les gens valorisent leur propre vie et ces informations-là, les économistes les utilisent pour essayer d'aider à l'agrégation de ces préférences individuelles pour aider les politiciens qui aujourd'hui doivent prendre des décisions qui sont des dilemmes moraux qui sont extrêmement dramatiques.
Chaque société accorde une certaine valeur à la vie humaine, mais pour vous, Christian Gollier, c'est ce que vous dites dans une tribune parue dans le journal Le Monde, il ne faut pas confondre valeur et marchandisation.
Oui, effectivement. Vous savez, il y a des tas de choses pour lesquelles nous accordons une valeur importante sans que ces choses fassent l'objet d'échanges et donc de prix. Un beau paysage, une amitié, un don du sang, un don d'organes, voilà toutes des choses que nous sommes prêts à faire, sur lesquelles nous accordons une valeur sans que nous voudrions qu'un prix soit associé à ces choses. Et donc, il faut bien déconnecter la notion de valeur et de prix. C'est pas parce qu'on accorde une valeur à la vie humaine qu'on est prêt à accepter l'esclavage, par exemple, qui est l'abandon de la liberté et de la vie humaine contre un prix qui serait la monnaie d'échange contre notre esclavage. Donc c'est vraiment très différent. Hein. L'idée d'accorder une valeur à la vie humaine n'a rien à voir avec l'idée de marchandisation des êtres humains.
À partir de quand les économistes ont-ils tenté d'évaluer le prix d'une vie, Christian Gaulier ? Il faut sans doute revenir un petit peu en arrière dans l'histoire.
Oui, tout à fait. Donc, dès que les États ont commencé à se préoccuper de devoir faire des arbitrages de cette nature-là, eh bien, la valeur de la vie humaine est apparue comme un élément crucial dans l'organisation de la décision collective. Et donc, effectivement, les économistes ont commencé à s'intéresser à ces choses sous l'impulsion des pouvoirs publics au début des années 50. Et je pense que historiquement, l'élément déclenchant, ça a été la problématique des premières frappes nucléaires aux États-Unis. La question était, au début des années 50, il y avait peu de têtes nucléaires aux États-Unis, et l'US Air Force a demandé à un think tank d'économistes qui s'appelait la RAND Corporation de réfléchir à quelle était la meilleure stratégie pour attaquer en première frappe nucléaire l'Union soviétique, dans la circonstance. Et la RAND Corporation, en utilisant les tout premiers ordinateurs de grande taille, IBM, ont sorti leurs premiers résultats issus de ces grands calculs, et on dit, mais en fait, la solution optimale consiste à envoyer une myriade de petits avions peu équipés, comme leurs, beaucoup vont être abattus, mais ça va permettre, dans cette myriade de petits avions leurs, on va pouvoir faire passer la tête nucléaire qui va détruire Moscou ou Leningrad. Et ça, évidemment, quand les économistes de la RAND Corporation sont arrivés avec cette proposition auprès de la US Air Force, la US Air Force était composée à sa tête d'un certain nombre de militaires, ces militaires ont été catastrophés par cette solution, puisqu'effectivement elle impliquait qu'un grand nombre de pilotes allaient mourir dans cette attaque d'avions leurs, et donc très rapidement les militaires ont abandonné l'idée de demander l'avis des économistes et se sont débrouillés sans eux. Et ça, cet échec-là de la RAND Corporation a été un élément déclencheur qui a conduit un certain nombre d'économistes dans les années qui ont suivi à réaliser qu'en fait leur calcul était faux parce qu'ils n'accordaient pas de valeur à la vie humaine, et que dans leur calcul d'optimisation, la fonction objective était simplement de maximiser la probabilité d'atteindre le pays ennemi. En réalité, il fallait bien sûr tenir compte du nombre de décès que ça allait induire. Et donc ça a conduit aux premières réflexions des économistes sur ce sujet.
Des premières réflexions qui ont permis, par exemple, de penser d'abord le prix de la vie humaine par le salaire, peut-être, que l'on accordait à ces pilotes, ou par le coût de leur formation.
Dans les années 60, effectivement, on a commencé à réfléchir non pas sur la valeur de la vie humaine, mais sur la valeur de la vie statistique, c'est-à-dire que on a regardé comment les individus se comportaient, comme je vous le disais tout à l'heure. Je peux réduire ma probabilité de mourir demain, et qu'est-ce que je suis prêt à payer aujourd'hui pour réduire cette probabilité de mourir demain ? Imaginons que vous soyez prêt à payer jusqu'à 1000 euros pour réduire votre probabilité de mourir d'un millième. Ça veut dire que vous accordez une valeur de la vie statistique à 1 million d'euros, hein. 1000 fois 1000, 1 million d'euros. Et ça, vous pouvez regarder effectivement comment, dans la réalité, les gens qui sont confrontés à cette problématique réelle de payer pour ou recevoir pour augmenter leur probabilité de décéder. L'exemple le plus simple, c'est il y a des métiers qui sont plus risqués que d'autres. Et ces métiers plus risqués, tout autre chose égale par ailleurs, ils sont aussi mieux rémunérés. Et donc les individus peuvent choisir entre différents métiers plus ou moins risqués, avec des salaires plus ou moins élevés. Et vous pouvez regarder comment les différentiels de salaire sont la conséquence des différentiels de risque de létalité de ces métiers-là. Et ça a permis aux économistes des années 60 de produire les premières estimations de la valeur de la vie statistique. On peut prendre d'autres exemples. À la fin des années 90, on a observé dans un comté de l'Arizona une augmentation du nombre de leucémies. Dans un comté, il y avait 24 000 habitants. Ils ont compté pendant 5 ans 16 leucémies, alors que statistiquement, il devait y en avoir que 5. Et ça a fait dans le comté énormément de bruit. Et des gens se sont paniqués et ont décidé d'abandonner, de vendre leur maison pour aller habiter dans un autre comté où la pollution était plus faible. On n'a jamais su exactement si c'était l'arsenic ou l'eau de tungstène ou d'autres produits dangereux qui ont généré cette surmortalité. Mais la conséquence, c'est que les gens ont observé cette surmortalité et en conséquence, certains d'entre eux ont préféré vendre leur maison. Ça a fait chuter le prix des habitations dans ce comté. Et ce qui a été observé, c'est que la chute des valeurs immobilières dans le comté a été de 16%, ce qui a permis aux économistes d'estimer, au regard de la surmortalité induite du fait d'habiter dans ce comté, d'en déduire une valeur de la vie humaine telle que les gens eux-mêmes étaient prêts à la confronter. Donc, des gens ont préféré rester dans le comté malgré qu'il y avait un risque de surmortalité, parce que les ménages vendent la maison, acheter une maison dans le comté d'à côté représentait un surcoût qui était trop élevé par rapport au fait d'affronter le risque supplémentaire consécutif à cette surmortalité. Vous voyez, donc ce sont des exemples, que ça soit sur le marché du travail ou sur le marché de l'immobilier, ça vous permet d'obtenir des informations.
Vous avez parlé des risques que l'on est prêt à prendre, que les individus sont prêts à prendre dans le cadre de leur travail. C'est le sujet du film de Clouseau, Le salaire de la peur. Rappelez-vous, 4 hommes acceptent de transporter un chargement de nitroglycérine sur 500 km, un voyage au péril de leur vie et pour lequel donc on leur promet une forte rémunération. Extrait.
J'ai les poumons bourrés de ciment. Là. Et là, les 100 mètres doivent être complètement opaques. Si tu continues comme ça, t'en as plus pour longtemps.
Combien?
Un an, 6 mois, peut-être un peu plus.
Peut-être un peu moins. Qu'est-ce qu'il faut faire?
Foutre le camp, tout de suite.
Mais comment?
Comment?
On demande des chauffeurs expérimentés. Travail dangereux. Très bien rétribué. S'adresser d'urgence au bureau de la
SPOSI. T'entends ça ? 2000 dollars chacun, ce qui paraît. Dans 8 jours, on sera loin.
Et plein aux as, moi je te le dis.
That's it, boys. What I have to offer you is not cozy. It's a real tough job. I've got to get a ton of nitroglycerin to Derek 16. That stuff's nitroglycerin.
Oh, my goodness!
With a ton of that stuff on here, the slightest bump, the slightest heat, you're a goner. Won't be enough for you left to even pick up. My trucks are plain ordinary trucks. No safety gadgets, no shock absorbers, nothing. You've got to do it all with your arms and legs.
Bon, combien vous payez?
$20. See, somebody's been picking you guys off. Well, now you've been warned. You're taking your lives in your own hands.
Vous voilà prévenu, votre vie est désormais entre vos mains. Que vous inspire cet extrait, Christian Gollier? Qu'est-ce qu'il nous dit des risques que l'on est prêt à prendre quand on n'a pas d'autre choix?
Alors effectivement, c'est une illustration un peu extrême, effectivement, parce que 2000 dollars à l'époque, ça fait peut-être 100 000 dollars d'aujourd'hui, c'est quand même pas grand-chose, lorsqu'on sait en particulier la fin de l'histoire, où les 4 personnes sont mortes dans le processus de transport de cette nitroglycérine. Donc oui, les êtres humains sont tous les jours confrontés à des décisions qui impliquent une modification de leur espérance de vie. Et ça, à nouveau, ça nous donne des informations sur ce que les gens sont prêts à faire pour eux-mêmes, pour réduire leur probabilité de décès. Et donc, ça nous donne une information sur la valeur de leur vie humaine qu'ils accordent à eux-mêmes. Et évidemment, on ne voudrait pas que l'État utilise un système de valeurs qui soit différent de ceux que les concitoyens ont pour eux-mêmes. On ne fait que déléguer à l'État des décisions qui sont dans l'intérêt général. Cet intérêt général doit évidemment prendre en compte les préférences individuelles.
Et c'est ainsi que l'on aboutit au chiffre de 3 millions d'euros qui correspond à la valeur d'une vie en France.
Alors effectivement, donc en France, il y a depuis une trentaine d'années une commission qui se réunit tous les 4-5 ans sous l'égide du Premier ministre au sein de France Stratégie, anciennement commissariat général au plan, qui détermine la valeur de la vie humaine, c'est-à-dire celle qui doit être utilisée pour faire des calculs d'évaluation des politiques publiques, que ce soit au ministère de la Santé, que ce soit au ministère du Transport et en fait dans l'ensemble des services publics. Ce qui est un peu dommage d'ailleurs.
Et dans quel cadre cette valeur s'est-elle révélée utile, Christian Gollier?
Ah, mais dans plein d'endroits, en fait. Quand on réfléchit à la construction d'une nouvelle ligne TGV, on tient compte en France du fait que transporter les gens en TGV plutôt qu'en voiture réduit le nombre d'accidents. Hein. Quand vous comparez par kilomètre parcouru la mortalité en voiture ou en train, la mortalité en train est infiniment plus faible que la mortalité en voiture. Et donc, un des bénéfices des lignes de train, c'est de réduire la mortalité. Donc, il y a un bénéfice bénéfices, outre le fait que vous allez plus rapidement, que vous émettez moins de CO2, etc., etc. En fait, vous avez aussi des gains en termes de vie humaine. Et quand l'État détermine cette stratégie de d'investissement public, l'argent public est rare et il faut l'utiliser au mieux de l'intérêt des citoyens, eh bien, on va tenir compte que les citoyens accordent une valeur à la vie humaine. Et quand on construit une nouvelle TGV, on réduit le nombre de décès, on réduit la probabilité de décès de chaque personne qui va se transporter en France, et on va tenir compte de ces informations pour déterminer si la ligne, par exemple, Paris-Toulouse est socialement désirable ou pas. Un autre très bel exemple, c'est celui de la décision du gouvernement actuel de réduire la vitesse sur les routes nationales de 90 km/h à 80 km/h. Quand cette décision politique a été prise, elle s'est faite sur la base d'un rapport scientifique de même nature que celle que je viens de vous présenter pour les lignes TGV. C'est-à-dire que vous avez eu des économistes qui se sont réunis et qui ont calculé les bénéfices et les coûts liés au fait de réduire la vitesse maximum sur les routes nationales de 90 à 80 km/h. Il y a trois types d'effets qui sont importants à prendre en compte quand on réduit la vitesse au volant. La première, c'est vous avez moins de décès, hein, où on sait bien que quand on roule moins vite, on a moins de chances de mourir. Vous avez aussi évidemment des pertes de temps. Vous savez bien quand vous partez en vacances que vous roulez à 80 km/h plutôt qu'à 90, mais vous mettrez une heure de plus pour vous rendre sur votre lieu de vacances. Mais il faut en tenir compte. Le temps, c'est de l'argent. Et puis aussi, réduire la vitesse au volant, ça réduit les émissions de CO2. Et donc, quand vous combinez tout ça, quand vous mettez une valeur de la vie humaine à 3 millions d'euros et réduire la vitesse au volant de 90 à 80, on a 250 personnes qui décèdent en moins chaque année en réduisant la vitesse au volant de 90 à 80. Par contre, ça va augmenter de 66 millions d'heures le temps de parcours des citoyens français tout au long d'une année. Et donc, si vous valorisez la vie humaine à 3 millions d'euros, les 250 personnes dont vous préservez la vie, vous allez le valoriser à 750 millions d'euros. Les 66 millions d'heures perdues, si vous les valorisez chacune à 10 euros l'heure de perdu, on peut en discuter, ça fait 660 millions d'euros. Ben, vous voyez bien que 750 millions d'euros de gains de valeur des vies sauvées l'emportent sur les 660 millions d'euros correspondant à la perte de temps supplémentaire nécessaire pour se transporter en France sur les routes nationales. Et donc, vous voyez que ce type de calcul, avec une valeur de 3 millions d'euros la vie et 10 euros l'heure de perdu, bien, vous voyez que ce type de calcul justifie la réduction de la vitesse sur la nationale de 90 à 80. Si on avait pris une valeur de la vie humaine à 2 millions d'euros, ben non, on aurait dû maintenir la vitesse à 90. Mais comme on l'a fait monter à 3 millions d'euros au début des années 2000, eh bien, ça justifie une baisse de la vitesse au volant de 10 km/h. Donc, voyez que cette valeur de 3 millions d'euros, c'est vraiment opérationnel.
Mais le calcul de cette valeur, Christian Gaulier, suppose que les individus fassent des choix rationnels, et ça, c'est évidemment contestable.
Bien sûr, oui, bien sûr. D'abord, on n'est pas toujours parfaitement bien informé des risques de décès. Quand vous habitez un endroit qui est plus pollué qu'un autre, vous ne vous rendez pas nécessairement compte que vous avez un risque supplémentaire sur votre mortalité. On a néanmoins des informations de plus en plus fines. On sait bien aujourd'hui qu'en France, qu'on a 50 000 morts chaque année liées aux microparticules en ville. Donc, on sait bien qu'habiter en ville réduit l'espérance de vie. Pour votre information, à New York, au début du XXe siècle, la pollution était telle que l'espérance de vie des Américains habitant à New York était de 6 années inférieure à celle des Américains habitant à la campagne. Donc, voyez que, voilà, néanmoins, habiter à New York a un certain nombre de bénéfices, et les New Yorkais ont considéré, consciemment ou inconsciemment, que habiter à New York, ça valait le coup malgré que votre espérance de vie était réduite de 6 ans par rapport à habiter à la campagne.
Il y a aussi cette question du choix et de la liberté du choix dans le cas de l'épidémie de coronavirus. Certains des métiers les plus précaires, par exemple les livreurs, les caissières, sont devenus dangereux alors qu'il s'agit parfois de livraisons qui n'ont rien d'essentiel. Ça, c'est ce que dit par exemple le collectif des livreurs autonomes de Paris, et que ce ne sont pas forcément des métiers qui ont été choisis librement.
Je voulais d'abord exprimer ma plus grande gratitude vis-à-vis de tous ces travailleurs qui, aujourd'hui, plus ou moins contraints, s'expose à des risques sur leur propre vie. Et c'est admirable de voir les infirmières, les médecins, les livreurs, comme vous disiez, les caissières, être au rendez-vous de leur responsabilité professionnelle. Donc ça, c'est quelque chose d'important. Ceci, vous avez raison de dire, aujourd'hui, il y a un certain nombre de personnes qui sont contraintes d'aller travailler alors qu'ils ne sont pas compensés pour le risque qu'ils prennent. Et ça, c'est un sérieux problème. Ceci étant dit, c'est bien clair qu'on a besoin d'infirmières, de médecins dans les hôpitaux, on a besoin de caissières dans nos supermarchés, et donc il y a une vraie question politique, et c'est bien pour ça que on a un problème lié à la valeur de la vie humaine. C'est que c'est pas juste un problème d'individus, c'est pas un problème de décision individuelle, auquel cas on n'aurait pas besoin de cette émission cet après-midi. C'est un problème de décision collective. Nous avons besoin de déterminer ensemble, collectivement, une stratégie de confinement et de déconfinement qui met en danger la vie d'un certain nombre de personnes contre la défense du pouvoir d'achat. Et ça, c'est un problème qui est un problème de nature politique auquel nous avons une obligation d'affronter et d'aider le pouvoir politique à prendre ses décisions dans l'intérêt général.
Et ce que l'on constate dans les chiffres, et c'est intéressant de le souligner, c'est que l'État accorde plus de valeur à la vie humaine que les individus lorsqu'il s'agit de leur propre vie.
Alors ça se discute, ça dépend un peu des gens. Je pense que les 3 millions d'euros qui aujourd'hui constituent la valeur tutélaire de la vie humaine, la vie statistique en France, qui est utilisée dans les évaluations des politiques publiques, certaines personnes effectivement, pour des raisons soit de rationalité avec des difficultés budgétaires, soit d'irrationalité, un certain nombre de personnes ont des comportements effectivement qui les exposent à des risques de mortalité qui sont un peu élevés par rapport aux bénéfices qu'ils peuvent en tirer. On peut prendre le cas de l'alcool, on peut prendre le cas des drogues plus ou moins dures. Là, c'est des problèmes d'addiction sur lesquels nous pourrions discuter longuement. D'ailleurs, je ne suis pas spécialiste de ces sujets.
Mais cela a justifié, en tout cas, une vision assez paternaliste de certains économistes dans justement cette évaluation du prix de la vie humaine.
Oui, effectivement, l'État en France en particulier a par nature, et c'est dans la culture de notre pays, l'idée que un certain nombre de citoyens ne sont pas rationnels, et dès lors l'État bienveillant, paternaliste, devrait prendre des décisions à leur place. On le voit sur l'augmentation des taxes qui pèsent sur la cigarette, on le voit sur un certain nombre de choses de cette nature-là. L'État joue un rôle paternaliste parce qu'il considère que les comportements individuels ne sont pas compatibles avec les intérêts de ces personnes elles-mêmes.
Et si le confinement était plus coûteux en vie humaine que le Covid-19, la question mérite d'être posée. Mais avant de tenter d'y répondre, les Rolling Stones nous emmènent dans une ville fantôme, Living in a Ghost Town, sur France Culture.
Living in a living in a ghost town. You can look for me, but I can't be found.
Living in a Ghost Town, un titre inédit des Rolling Stones. Vous écoutez France Culture, entendez-vous l'écho? Et nous poursuivons notre discussion sur le prix de la vie en compagnie de Christian Gaulier, directeur général de la Toulouse School of Economics. Alors on l'a dit, la plupart des pays ont fait passer la santé avant l'économie, mais cette décision n'est pas acceptée par tout le monde. Aux États-Unis, des manifestations se sont multipliées pour demander la levée des mesures de confinement.
Si c'est mon heure, c'est mon heure. Si Dieu décide que cette maladie doit m'emporter, qu'il en soit ainsi.
Il y a des virus qui peuvent nous atteindre et tuer, on le sait tous. Ce n'est pas nouveau. Mais je trouve qu'avoir plus peur d'un virus que de la vie, c'est un problème.
Tous nos emplois sont essentiels ici dans le Minnesota. Et aucun gouverneur ou qui que ce soit ne peut déterminer qui a le droit de travailler, où et quand on pourra y retourner. Si vous tenez tant à abandonner vos libertés civiques, alors allez vous installer dans un pays communiste.
Nous avons la liberté constitutionnelle de faire ce que l'on veut, de s'exprimer librement, de voyager. Si on perd cette liberté-là, alors on va finir comme le Venezuela.
Des témoignages extraits d'un reportage réalisé par nos confrères de France 24. Que traduit cette résistance d'une petite frange de la population américaine, selon vous, Christian Gaulier ?
Mais d'abord, beaucoup de choses. La première chose, c'est que, évidemment, qu'on a chacun, en tout cas, beaucoup de gens, en particulier les jeunes, les adultes, d'une certaine façon, moins les seniors, qui ont un risque de mortalité beaucoup plus important sur ce coronavirus. Mais évidemment que se déplacer, sortir de son confinement, vous pouvez un intérêt spécifique individuel plus important que le coût lié à la surmortalité que vous allez auquel vous allez être confronté vis-à-vis, étant donné ce comportement-là. Le problème, c'est que quand vous déconfinez, vous créez non seulement un risque pour vous-même, mais aussi un risque pour les autres. Et ça, c'est extrêmement important à réaliser, parce que aujourd'hui, une personne infectée, déconfinée, va infecter 3, 4, 5 personnes. Et donc, votre comportement n'a pas un effet que sur votre propre risque de décès, il a aussi un impact sur le risque de décès de vos voisins et de l'ensemble de nos concitoyens. Et donc, vous n'êtes pas nécessairement incité dans ce monde-là à vous comporter dans le sens de l'intérêt général, d'où une certaine obligation du confinement. Parce que vous générez une externalité négative en vous déconfinant tout seul, vous devenez un vecteur du virus et vous n'êtes pas nécessairement incité à tenir compte du fait que vous allez imposer un risque supplémentaire aux autres, et ça implique une intervention publique. Ça, c'est le premier point. Deuxième point que je voudrais faire remarquer vis-à-vis de cette observation des manifestations aux États-Unis, c'est que dans ce pays-là, et comme dans beaucoup d'autres pays, il n'y a pas eu de débat sur la valeur de la vie humaine. On n'a pas les 3 millions d'euros que je vous ai présenté pour la France tout à l'heure. C'était une décision d'un certain nombre d'experts dans un bureau confiné près de Matignon. Il n'y a jamais eu en France de débat démocratique sur cette valeur, et donc il n'y a pas de légitimité démocratique. Énormément. Je le dis depuis longtemps qu'il faudrait avoir un débat démocratique au Parlement sur quelle valeur accorder à la vie humaine, parce que c'est un élément déterminant, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, d'un certain nombre d'évaluations des politiques publiques. Hein, faut-il plus de lits d'hôpitaux plutôt que mettre plus d'argent dans l'éducation? On doit faire des arbitrages. Hein, est-ce qu'il faut faire plus de TGV, moins d'autoroutes, plus de respirateurs, plus de masques, plus ou moins d'éducation? Tout ça sont des décisions qui sont prises aujourd'hui dans les ministères sur base d'une valeur de la vie humaine qui a été décidée de façon technocratique à partir effectivement de l'observation de comportements individuels, mais c'est quand même une décision qui est cruciale pour le fonctionnement de notre société, mais qui n'a jamais fait l'objet d'un débat démocratique, et ça, c'est extrêmement dommageable. On en voit aujourd'hui la conséquence. La conséquence, c'est qu'aujourd'hui, il est impossible d'avoir un débat démocratique sur comment déconfiner, à quelle vitesse, qui faut-il déconfiner. Toutes ces décisions dépendent du niveau de la valeur humaine qu'on voudrait bien accorder dans notre société. Et ça, étant donné qu'on n'a pas de légitimité sur ce chiffre, il n'y a jamais eu de débat, et on le voit bien aujourd'hui. Moi, la tribune dans le monde dont vous m'avez parlé tout à l'heure fait l'objet d'un débat assez virulent, des pour et des contre. Il y a beaucoup de gens qui disent « Ah mais non, la vie humaine, c'est juste impossible. »
On vous reproche de privilégier une approche exclusivement comptable, et que c'est peut-être, pour certains, c'est cette approche qui précisément a entraîné la crise que nous traversons aujourd'hui, avec justement le manque de lits, le manque de respirateurs à l'hôpital.
Ah non, ça je ne pense pas, parce que si on avait vraiment utilisé la valeur de la vie humaine de 3 millions d'euros pour déterminer la capacité de lits dans les hôpitaux, on aurait sans doute fait plus de lits d'hôpitaux. Ceci étant dit, il est difficile d'évaluer...
Plutôt la logique comptable.
Oui, oui, attendez, souvenez-nous H1N1 2009. H1N1 2009, on a la ministre de la Santé, Madame Bachelot, a acheté une quantité importante de vaccins, et elle a été pratiquement vilipendée, si pas condamnée, par l'opinion publique et par le politique, parce qu'elle avait mis trop l'accent sur la vie humaine. Donc, deux poids, deux mesures. C'est toujours très difficile d'évaluer a posteriori une décision politique en utilisant l'information qui n'était pas disponible au moment de la décision. Ça a été vrai pour H1N1, c'est vrai aujourd'hui pour coronavirus. C'est pas clair, il y a 2 ans, que, étant donné la faible probabilité de l'émergence d'une pandémie comme celle que nous sommes, auquel nous sommes confrontés, qui est de nature séculaire, hein, c'est une fois tous les 100 ans. La dernière fois qu'on a eu une chose pareille, c'est 1918, la grippe espagnole. Donc il faut aussi se rappeler que la probabilité d'événements auxquels nous sommes confrontés aujourd'hui est assez faible, et donc juger aujourd'hui du fait qu'on n'a pas assez de respirateurs, on n'a pas suffisamment investi il y a quelques années dans les respirateurs, mais c'est une évaluation un peu difficile à faire dans un monde avec des fortes incertitudes.
Vous dites qu'on a besoin aujourd'hui d'un débat, qu'il y aura un certain nombre d'arbitrages qui vont devoir être faits pour décider en particulier de la façon dont va se dérouler le déconfinement. Parce qu'il faut peut-être souligner à ce stade, Christian Gaulier, c'est que la pauvreté tue aussi, et d'une façon sans doute plus insidieuse qu'une pandémie comme celle que nous vivons actuellement.
Et
que le confinement, avec l'arrêt de l'économie qu'il suppose, peut avoir des conséquences aussi extrêmement grave.
Oui, vous avez tout à fait raison. Il faut bien se rappeler que si on n'avait pas confiné, beaucoup de gens sont en train de dire aujourd'hui pourquoi on en fait tant alors qu'on n'a que 20 000, entre guillemets, que 20 000 morts aujourd'hui en France. Il faut bien se rappeler que si on n'avait pas fait ce que le gouvernement a décidé de faire le mois dernier, on ne serait pas à 20 000 morts, on sera à 100 000, 200 000, 300 000 morts, et on se dirigerait vers probablement le million de morts d'ici la fin de l'année 2020. Donc c'est très important d'avoir ça en tête. Maintenant, le confinement était une décision facile. Le déconfinement va être une décision extrêmement compliquée à prendre. Parce que aujourd'hui, si on veut anéantir, supprimer le virus de la société française, il faudrait rester confiné, étant donné que le R0, ce fameux taux de reproduction de la pandémie, tourne autour de 0,5, 0,6, 0,7, c'est-à-dire que un infecté va infecter entre une demi et deux tiers de personnes. Eh bien, il faudra néanmoins attendre quelque chose comme 6 mois pour s'assurer que le niveau de prévalence de la maladie soit suffisamment faible pour déconfiner sans un risque de nouvelle vague de la pandémie. Et 6 mois de confinement, c'est probablement quelque chose comme 30% de PIB en moins, 30% de revenus pour les ménages dans les années à venir. Je vous rappelle que on ne peut pas consommer ce qu'on n'a pas produit, et 30% de perte de production dans la société française en 2020, ça correspond à 30% de revenus en moins dans la société française, 30% de consommation en moins dans les années à venir.
C'est là qu'il faut peut-être introduire dans notre modèle économique la question du temps. Est-ce que l'on parle des années présentes, des années futures, et est-ce que les premières ont plus de valeur que les secondes? Ça, c'est aussi une question qui est prise en compte.
Et oui, et on le voit bien. Alors, on le voit. Le problème du coronavirus, on est vraiment dans le court terme. Hein. Le coronavirus, on espère qu'on aura un vaccin d'ici 1 an, 2 ans maximum. La problématique du temps, une problématique qui est extrêmement importante, vous avez raison, elle se pose de façon plus cruciale dans la problématique du changement climatique, sujet sur lequel je travaille aussi beaucoup, où les efforts que vous faites aujourd'hui vont engendrer des bénéfices qui seront dans 10, 20, 30, 40, 50 ans, un siècle. Les bénéfices de vos efforts de confinement aujourd'hui, ils vont avoir un bénéfice qui, ce bénéfice va se produire dans les semaines et les mois à venir. Donc on est dans un horizon de temps beaucoup plus court et effectivement, on peut, l'idée de lissage de la courbe, hein, le flatten the curve, pour utiliser l'expression anglaise consacrée, était aussi de dire au fond, si on veut créer l'immunité collective, il faudrait exposer beaucoup de monde, mais on peut pas le faire simultanément parce que si on le fait tout de suite, on va submerger les hôpitaux et donc ça va faire exploser le taux de mortalité. Et donc effectivement, le lissage de la courbe, c'est aussi l'idée qu'on va transférer les décès du présent vers l'avenir sans résoudre le problème fondamentalement. Et c'est d'ailleurs un petit peu le sujet pour le gouvernement aujourd'hui. Aujourd'hui, on est avec un taux de prévalence qui est probablement compris entre 5 et 10%. Il y a beaucoup de débats là-dessus, mais à mon avis, il est compris entre 5 et 10%. Et ça veut dire qu'aujourd'hui, déconfiner, c'est remettre la société française dans la situation qui prévalait à la début mi-mars. Et donc, une réaccélération de la pandémie très, très rapidement et probablement un deuxième confinement d'ici la mi-juin ou le début de l'été, quoi.
Et donc, il y a cette question de la durée de la vie, mais il ne faut pas oublier aussi celle de la qualité de la vie qui doit être prise en compte dans le calcul dont nous parlons.
Oui, oui, vous avez tout à fait raison. Et d'ailleurs, il y a un gros débat parmi les experts qui est de savoir, au fond, la pandémie, elle touche essentiellement les personnes de plus de 65 ans. Quand vous regardez les taux de mortalité, ils sont pratiquement égal à zéro. On a aucun mort de moins de 15 ans en France depuis le début de la pandémie. Par contre, 75% des décès sont des personnes qui ont plus de 70 ans. Donc, on a une problématique qui est assez délicate en termes de l'hétérogénéité de la population vis-à-vis de ce taux de mortalité. Et d'ailleurs, moi, je suggère, à partir de mes travaux en lien avec les modèles épidémiologiques en vigueur, que finalement, pour résoudre à la fois la problématique de la vie humaine et de la défense de l'économie, eh bien, peut-être faudrait-il, et je sais que c'est un tabou, mais tant pis, peut-être faudrait-il continuer à confiner les personnes âgées, celles qui ont un taux de mortalité élevé, et de déconfiner à la fois les jeunes, les remettre assez rapidement à l'école, les adultes, sauf ceux qui ont des problèmes de comorbidité, mais essentiellement les jeunes et les adultes, les déconfiner rapidement, qu'ils créent ensemble l'immunité collective, qui devrait être autour de 60, 70, 80% de la population. Et une fois qu'on a atteint cette immunité collective, avec un taux de mortalité faible, puisque ces tranches d'âge ont un taux de mortalité faible, eh bien, c'est à ce moment-là seulement qu'on pourrait déconfiner les personnes âgées. Donc, en quelque sorte, les jeunes générations prendraient le risque qui est faible pour eux, pour au nom des générations plus âgées. Et ça permettrait à la fois de minimiser le nombre de décès dans la société française, tout en relançant l'économie et ne pas avoir besoin d'arbitrer entre la valeur de la vie humaine et la défense de l'économie.
La Suède est l'un des rares pays à avoir choisi de ne pas confiner sa population et de garder les frontières, les écoles et les restaurants ouverts malgré la pandémie.
Notre stratégie consiste à ne protéger que les personnes âgées et malades. Seulement ces personnes doivent rester chez elles. Notre objectif en faisant cela, c'est d'obtenir petit à petit une immunité de groupe. Ici, chacun se responsabilise. On fait plus attention, mais nous faisons confiance à l'État. On vit au jour le jour.
Pour moi, avoir peur, ça ne sert à rien. Ça ferait plus de mal que de bien. Tout est ouvert, c'est vrai, mais les magasins ferment plutôt que d'habitude. Et moi, par exemple, je télétravaille en ce moment, donc on s'adapte, chacun comme on peut.
Les cours de natation ont été supprimés. On fait juste attention pendant les cours de sport que les enfants gardent leur distance. On fait davantage de jeux de balles et on a renforcé les opérations de nettoyage et de désinfection.
La Suède a choisi une stratégie particulièrement risquée et l'épidémie a déjà tué plus de 2000 personnes dans le pays pour une population globale de 10 millions d'habitants. Quel est votre regard sur ce pari de la Suède de l'immunité collective ?
Alors il faut effectivement s'assurer, et j'espère que le gouvernement suédois, je pense qu'il est bien conseillé, s'assure de ça, que ce non-confinement ne conduit pas à une submersion des services d'urgence dans les hôpitaux suédois. Je pense qu'aujourd'hui ça fonctionne, et ça fonctionne grâce au fait que aujourd'hui on a suffisamment d'informations pour être à peu près sûr que le taux de mortalité des moins de 20 ans est vraiment infime, que le taux de mortalité des gens d'un âge inférieur à 60 ans reste extrêmement faible, et donc le déconfinement ou le non-confinement de ces classes d'âge, c'est une manière de construire l'immunité collective à un coût à la fois en termes de mortalité faible, mais aussi avec un impact totalement minime sur l'économie suédoise. Et donc ça, je pense que ça peut fonctionner à nouveau. Ça ne peut fonctionner que si on protège super fort les générations qui sont au risque de létalité, les personnes âgées. Et donc c'est quand même un bel exemple de solidarité intergénérationnelle. Ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire que la politique suédoise que je propose d'adapter à la France, c'est les jeunes et les adultes s'engagent, s'exposent, créent l'immunité collective, se contaminent entre eux avec un risque de mortalité faible, mais quand même avec des décès, hein, pour protéger les générations les plus à risque, les personnes âgées.
Vous avez beaucoup travaillé, Christian Gaulier, sur la prise de décision en situation d'incertitude, et c'est un article de 1738 écrit par le mathématicien Daniel Bernoulli qui a offert une première réponse à cette question, comment s'effectue la prise de décision en situation d'incertitude. En quoi est-ce qu'il s'agit d'un article fondateur ?
Alors oui, l'article de Daniel Bernoulli est effectivement l'article qui aujourd'hui est utilisé par l'ensemble de la communauté des économistes scientifiques, hein, pour évaluer les politiques publiques en situation d'incertitude. Alors, en fait, on a un petit peu évolué par rapport à 1700, les milieux des années du 18e siècle, parce que aujourd'hui, autant Daniel Bernoulli faisait l'hypothèse qu'on connaissait les probabilités, hein, il s'intéressait à des jeux de dés, des jeux de hasard, des jeux de cartes, et sur lesquels on peut avoir des probabilités à peu près bien définies. Le problème aujourd'hui, sur le cas du coronavirus, c'est qu'on a beaucoup d'incertitudes qui sont des incertitudes profondes. C'est-à-dire qu'on ne sait même pas à quelle probabilité on est confronté. On a, par exemple, un débat entre épidémiologistes sur le fameux R0. Est-ce qu'une personne infectée aujourd'hui, déconfinée, est-ce qu'elle va infecter 3 personnes ou 10 personnes? Cet intervalle de confiance, 3-10, vous donne une idée de l'absence de consensus et du degré d'incertitude auquel le décideur public est confronté lorsqu'il réfléchit au problème de déconfinement. Et donc, ces incertitudes fondamentales n'ont pas été prises en compte par Daniel Bernoulli, elles sont prises en compte dans une version moderne de cette problématique qu'on appelle le principe de précaution. Hein, aujourd'hui, dans la Constitution française, hein, dans la Charte de l'environnement qui est adossée à la Constitution française, nous avons un principe de précaution qui nous dit que dans des situations d'incertitude radicale comme celle-là, eh bien, il faut réfléchir comme si le pire était certain. Alors moi, je ne suis pas entièrement d'accord avec cette idée-là, parce qu'en particulier, les individus eux-mêmes ne se comportent pas selon ce principe. Mais voilà, c'est un principe de décision, c'est une règle de décision qui aujourd'hui doit être prise en compte étant donné qu'elle est inscrite dans la loi, au moins là-dessus. Autant on n'a pas eu de débat démocratique sur la valeur de la vie humaine, autant je pense qu'on a eu un débat démocratique à travers les médias, à travers la presse et dans les débats de couloir, hein, sur ce principe de précaution qui aujourd'hui, je pense, est assez bien validé par l'opinion publique.
Aujourd'hui, dans chaque pays, il y a un arbitrage qui est fait entre le coût d'un prolongement du confinement et le risque d'une forte augmentation du nombre de morts, voire d'une deuxième vague. Je voudrais vous entendre, Christian Gaulier, sur cette question du risque économique du prolongement du confinement. Il y a tout de même de nombreux travaux sur les répercussions de l'appauvrissement, sur la santé, sur le suicide. Qu'est-ce qu'on peut dire à ce sujet ?
Oui, alors c'est vrai que le gouvernement est pas très clair sur ses objectifs, hein. Il y a 3 stratégies possibles. La stratégie numéro 1, c'est une stratégie de suppression. On reste confiné tant que le virus est dans la société française. Mais ça, si on veut atteindre la suppression, il faudra attendre 6 mois de confinement. Et donc ça, évidemment, c'est strictement impossible d'un point de vue économique, sauf à fixer la valeur de la vie humaine à des niveaux proches de l'infini. La solution numéro 2, c'est le stop and go, hein, c'est-à-dire que je pense que c'est la décision qui a été prise la semaine dernière en France, c'est-à-dire qu'on va déconfiner dès que le taux de mortalité ou de prévalence sera suffisamment faible, en la circonstance le 11 mai pour le cas de la France, et puis on va reconfiner, ça va redémarrer, la courbe va se renverser, on va remonter dans le taux d'occupation des lits d'hôpitaux, dans l'utilisation des respirateurs, et à ce moment-là, l'État va devoir décider de reconfiner la population française avec à nouveau des coûts économiques supplémentaires. Et le problème, c'est que les modèles épidémiologiques qui étudient ce type de politique nous disent, eh bien, si on part dans cette direction-là, eh bien, on est probablement dans un horizon de temps de déconfinement, reconfinement, déconfinement de l'ordre de 1 an et demi, 2 ans. Il faut espérer qu'on ait un vaccin ou un traitement avant d'arriver à l'immunité collective, qui est l'objectif de cette stratégie Stop and Go. La troisième stratégie, c'est celle que je vous ai indiquée tout à l'heure, qui minimise en même temps le nombre de décès et l'impact économique, c'est celle de confiner les personnes les plus susceptibles de mourir de la maladie, qui sont les personnes de plus de 65 ans. Et à ce moment-là, si on fait ça, en fait, on a une perte en termes de PIB qui est inférieure à 5% et un taux de mortalité qui sera alors là plus concentré sur les personnes âgées, mais sur les personnes qui vont créer l'immunité collective, ce sont les jeunes et les adultes. Et là, on aura un taux de mortalité de 0,2% de la population, ce qui est beaucoup plus faible que ce qu'on aurait imaginé si on n'avait pas de confinement.
Dans certains pays, la situation économique est tellement catastrophique que le confinement, que le déconfinement devient vital. Je pense à l'Iran, par exemple, qui souffre énormément de la chute du prix du baril de pétrole et qui a autorisé la reprise de l'activité économique. C'est important de comprendre, Christian Gaulier, que tous les pays n'ont pas la même marge de manœuvre.
Bien sûr, mais ils se condamnent eux-mêmes, ils se condamnent à une deuxième vague qui sera encore bien pire. Rappelons-nous que pour la grippe espagnole, la deuxième vague et la troisième vague ont tué bien plus que la première vague. La seule inconnue qu'on peut avoir aujourd'hui, hein, sur l'intensité de la deuxième vague, celle de l'après 11 mai pour le cas de la France, c'est quelle est l'efficacité des gestes barrières, quelle est l'efficacité des masques que nous allons utiliser, quelle est l'efficacité des efforts de distanciation sociale dans les entreprises. Hein, si on parvenait à avoir des masques efficaces, si on parvenait à avoir des efforts de distanciation sociale qui néanmoins permettent la production de biens et services, eh bien peut-être qu'on pourrait maintenir le R0 en dessous de 1 et donc de ne pas être confronté à une deuxième vague en France pour l'été. Mais ça, à nouveau, ce sont des incertitudes de nature scientifique et aussi de nature d'incitation, hein, des entreprises et des individus à faire les gestes barrières et faire les efforts d'investissement nécessaires pour maintenir cette vitesse de propagation à des niveaux qui permettent d'éviter la deuxième vague. Et ça, aujourd'hui, personne n'a vraiment de réponse à cette question de l'efficacité de ces gestes barrières une fois qu'on aura déconfiné.
Est-ce qu'il n'aurait pas fallu investir massivement dans les tests dès le début de la crise, ce qui a été la stratégie de Taïwan et dont on sait qu'elle a été particulièrement payante sur l'île, alors même qu'elle est particulièrement proche de la Chine?
Mais oui, vous avez totalement raison. Réalisons ce qu'on est en train de faire. Aujourd'hui, on a un taux de prévalence qui est donc de personnes qui sont effectivement aujourd'hui infectées de l'ordre de 1 à 3% de la population française. Et ce qu'on fait, c'est confiner 80% de la population française parce que on veut éviter que les 2% qui sont en leur sein ne répandent la pandémie. Donc pour une personne que l'on empêche d'engendrer une transmission de la maladie, on confine 50 personnes. Vous voyez que c'est extrêmement inefficace. Si on avait la capacité de tester, de savoir qui est pour l'instant infectieux, eh bien on pourrait libérer les 49 personnes pour ne confiner que la seule personne qui est positive dans la société française par groupe de 50 personnes. Et ça, le problème, c'est qu'on a, hélas, en France, pris beaucoup de retard par rapport à d'autres pays, comme nos voisins allemands. On a beaucoup tergiversé pour augmenter massivement la capacité de test. Aujourd'hui, on est autour de 150 000 tests de positivité coronavirus par semaine. C'est beaucoup trop peu.
On arrive au terme de cette émission, Christian Gaulier. Pour conclure, est-ce qu'on peut dire que cette crise oblige aujourd'hui à repenser les liens entre santé et économie et que c'est tout un nouveau pan de la recherche qui s'ouvre pour les économistes de la santé ?
En tout cas, je pense que la valeur de la vie humaine aujourd'hui de 3 millions d'euros doit absolument faire l'objet d'un consensus politique, d'une discussion démocratique. On a bien réussi, semble-t-il, à faire en France un débat démocratique dans la Convention citoyenne sur le climat. Pourquoi est-ce qu'on n'essayerait pas de faire un débat démocratique sur nos valeurs intrinsèques ? Comment pouvons-nous gouverner la France si on n'est pas d'accord sur les valeurs à accorder à des choses aussi essentielles que la vie humaine, que la défense du pouvoir d'achat, que la défense d'environnement. Aujourd'hui, on ne dispose pas de ces valeurs et donc on navigue à vue avec des débats qui ne sont sans fin. Commençons par discuter des valeurs. Une fois qu'on aura un accord démocratique sur nos valeurs de société, on pourra appliquer ces valeurs dans les décisions, dans les évaluations des différentes actions que l'État pourrait prendre, que ça soit pour déterminer ses investissements dans l'hôpital, que ça soit pour déterminer ses investissements dans la réduction des émissions de CO2. Aujourd'hui, on n'a pas ces valeurs et il faut absolument que les scientifiques aide à contribue à ce que ce débat démocratique puisse se faire. Il n'est évidemment pas question que les économistes déterminent dans leur coin la valeur de la vie humaine. C'est bien entendu un débat démocratique que nous devons avoir. Et donc ce n'est pas qu'un sujet académique, c'est un sujet de société.
Merci beaucoup Christian Gaulier de nous avoir accompagnés tout au long de cette émission. J'en profite pour rendre hommage à Claude Le Pen, grand économiste de la santé que nous avions reçu plusieurs fois sur France Culture et qui vient de nous quitter. Il avait apporté une réflexion essentielle sur la place de l'économie dans le secteur de la santé. Merci également à tous ceux qui œuvrent au quotidien pour que ces entretiens à distance soient possibles. Le CDM et bien sûr Jean-Marc Loss, Marie-Christine Vesely. Demain, nous recevons l'économiste et spécialiste de la mondialisation El Mouhoub Mouhoud pour parler chaîne de valeur et souveraineté sanitaire. Dans un instant, ce sera l'heure de la Compagnie des œuvres par Mathieu Garrigou-Lagrange. Excellente journée à l'écoute de France Culture.
Trying to